Bonsoir ou peut-être bonjour, il est 19h ici à Paris.
RFI Soir, Philippe Le Caplain.
Dans 10 minutes, ce sera Dimanche Politique avec vous, Virginie Martin, bonsoir.
Bonsoir.
Et Bertrand Badie sera également en ligne avec nous. Tout d'abord le journal. Après son clash avec Donald Trump, Volodymyr Zelensky trouve du réconfort à Londres où vient de se tenir un sommet européen. Après la décision d'interrompre l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, le chef de l'ONU appelle à son rétablissement immédiat. Après les Césars, les Oscars dans quelques heures à Hollywood et la question de savoir si le film Emilia Pérez du français Jacques Audiard obtiendra une statuette.
RFI.
L'Europe doit se réarmer de manière urgente et les pays européens doivent obtenir des marges de manœuvre budgétaires pour accroître leurs dépenses en matière de défense. C'est la déclaration que vient de faire la présidente de la Commission européenne à l'issue du sommet à Londres consacré à la sécurité en Europe et au soutien à l'Ukraine face à la Russie. Autre prise de parole, celle du Premier ministre britannique qui accueillait donc ce sommet, Keir Starmer, qui a un plan.
First, we will keep the military aid flowing.
Premièrement, nous allons maintenir le flot d'aide militaire et augmenter la pression économique sur la Russie afin de renforcer l'Ukraine dès maintenant. Deuxièmement, nous avons convenu que toute paix durable doit garantir la souveraineté et la sécurité de l'Ukraine. Et l'Ukraine doit être à la table des négociations. Troisièmement, si un accord de paix est conclu, nous renforcerons encore les capacités militaires de l'Ukraine pour écarter toute invasion future. Quatrièmement, nous allons développer une coalition de bonne volonté afin de défendre cet accord et de garantir la paix. Le Royaume-Uni est prêt à soutenir cet effort avec des troupes au sol et des avions dans le ciel aux côtés d'autres nations, car l'Europe doit faire le gros du travail. Mais pour conforter la paix sur notre continent et pour réussir, cet effort doit bénéficier d'un franc soutien américain. Nous travaillons sur ce point avec les États-Unis. Et que ce soit très clair, nous partageons avec le président Trump le désir d'une paix durable. Maintenant, il faut que nous y parvenions ensemble.
We need to deliver together.
Keir Starmer, tout à l'heure à Londres. Londres où vous trouvez Sarah Menet. Après le sort qui lui a été réservé à la Maison Blanche, Volodymyr Zelensky a donc trouvé aujourd'hui dans la capitale britannique du réconfort.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Oui, on peut dire qu'il a trouvé du réconfort. Il a d'abord eu l'accueil chaleureux de Keir Starmer hier soir au 10 Downing Street. Il a ensuite eu les bras du chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, qui a pris Volodymyr Zelensky dans ses bras à son arrivée à Lancaster House tout à l'heure. Et puis il a surtout eu les mots de ses confrères européens. L'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine. C'est finalement tout le message qu'auront voulu faire passer la douzaine de dirigeants réunis à Londres aujourd'hui. Les discussions auront duré près de 2 heures. Autour de Volodymyr Zelensky et Keir Starmer, il y avait notamment Emmanuel Macron, le Premier ministre norvégien, mais aussi le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Von der Leyen, justement, qui a déclaré il y a quelques minutes devant un parterre de journalistes « Nous voulons que les États-Unis sachent que nous sommes prêts à défendre la démocratie ». Dans les prochaines minutes, Volodymyr Zelensky devrait trouver encore un peu plus de réconfort, Philippe, puisqu'il était attendu au château de Sandringham à l'est de l'Angleterre pour y rencontrer le roi Charles III, qu'il avait déjà rencontré l'an dernier et qui, depuis le début de son règne, ne cesse de soutenir le président ukrainien.
Sarah Menet à Londres pour RFI. Et dans ce contexte, cette déclaration du Kremlin. Il déclare que le changement radical de politique étrangère des États-Unis à l'égard de la Russie coïncide largement avec sa vision. Le chef de l'ONU appelle au rétablissement immédiat de l'aide humanitaire à Gaza. Antonio Guterres s'alarme de la décision de la suspendre prise par Israël. Le Hamas dénonce pour sa part une violation de l'accord de cessez-le-feu dont le deuxième volet était censé entrer en vigueur ce week-end, mais qui paraît être dans l'impasse. De son côté, l'Égypte appelle l'Union européenne à exercer davantage de pression sur Israël pour qu'il applique cet accord de cessez-le-feu à Gaza. La Réunion toujours sous le choc après le cyclone Garance. L'heure est désormais au nettoyage et au déblaiement après les vents soufflant à plus de 200 km/h. Les réseaux électriques continuent d'être progressivement remis en route, mais 90 000 personnes, soit 20% de la population, restent privées d'alimentation. Le tapis rouge est en place à Hollywood. Tout est prêt pour couronner le meilleur du cinéma aux Oscars, où la tragicomédie Anora et le thriller papal Conclave sont au coude à coude pour le prix du meilleur film. Emilia Pérez du français Jacques Audiard a également espoir d'obtenir une statuette, Elisabeth Le Quéré.
C'était le favori, toutes catégories confondues, avec ses 13 nominations du jamais vu. Pour un film non anglophone, Emilia Pérez semblait tout naturellement appelée à voguer vers le sommet du podium. Mais une série de polémiques a commencé par la résurgence de tweets racistes postés par son actrice principale, Carla Sofia Gascón, en a voulu autrement. Et le film de Jacques Audiard pourrait bien repartir les mains vides, ou presque, de la cérémonie. Désormais, c'est donc ailleurs que les regards se tournent, et d'abord vers The Brutalist et son réalisateur Brady Corbett. Cette fresque monumentale, portrait d'un architecte de génie, joué par Adrien Brody, a déjà amassé une pluie de récompenses et cumulé plus de 30 millions de dollars de recettes de par le monde. Sur ses talons, le thriller vaticaniste Conclave, et puis, bien sûr, le challenger Anora, celui que personne n'avait vu venir malgré sa palme d'or reçue à Cannes en mai dernier. Portrait d'une call girl aussi ambitieuse que déterminée, le film a mis en lumière son actrice, Mikey Madison, d'ores et déjà considérée comme une candidate toute désignée à l'Oscar de la meilleure actrice.
Et puis on s'est posé sur la Lune aujourd'hui. Après 45 jours de voyage, qui a permis à l'engin de prendre au passage nombre de photos spectaculaires, une entreprise privée américaine travaillant pour la NASA a réussi à faire alunir un robot sur le satellite naturel de la Terre. Salut Diouf. En football, la Ligue 1, Lyon s'est imposée tout à l'heure face à Brest.
Sur le score de 2-1 à domicile grâce à un doublé du général Alexandre Lacazette pour les Lyonnais, et c'est pourtant les Bretons qui avaient ouvert le score sur pénalty par Lala. Mais c'est une scène hallucinante qui a marqué le match. L'entraîneur de l'OL, Paulo Fonseca, a totalement dégoupillé. Il a fini tête contre tête avec l'arbitre à la 90e minute après que ce dernier est allé consulter la VAR. Le Portugais, très véhément sur le moment, regrette son attitude.
Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je ne veux pas excuser pourquoi j'ai à vous sagesse. Qu'est-ce que je veux dire et que m'excuse que je ne devais pas faire ça.
Et ça peut lui coûter très très cher parce qu'il risque 7 mois de suspension.
D'autres matchs sont en cours actuellement en Ligue 1.
Et des rencontres qui vont pas tarder à s'achever. Le Stade Rennais d'Habib Bey se déplace à Montpellier. Bon dernier, Rennes mène 3-0. Et c'est le champion d'Afrique ivoirien Seko Fofana qui a ouvert le score pour les Rennais. Auxerre est mené au score 1-0 face à Strasbourg à domicile. Et Toulouse joue sur la pelouse d'Angers. Ça fait 3-0 pour Toulouse.
Et cette 24e journée de Ligue 1 s'achève ce soir. Hein.
Marseille reçoit Nantes au Vélodrome. Lourdement battu le week-end dernier à Auxerre. L'OM, dauphin du PSG, doit se reprendre. Nice est revenu à la hauteur de la deuxième place. Les Marseillais sont sous pression, mais pas beaucoup plus que d'habitude, selon le milieu ou défenseur centrafricain Geoffrey Kondogbia.
On vit avec la pression constante depuis la première journée. Ça fait partie de notre quotidien et c'est ce qui permet aussi de nous maintenir une intensité chaque week-end. Donc ça n'a pas changé encore cette semaine. On savait que ça allait être difficile depuis le début du championnat et aujourd'hui on le sait encore plus. Ça nous demande d'être beaucoup plus, faire preuve de beaucoup plus d'attention, de beaucoup plus d'agressivité. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, c'est une semaine comme une autre. C'est de pouvoir mettre les ingrédients de notre côté pour gagner ce match. Pas plus, pas moins.
Et coup d'envoi de la rencontre, 19h45, temps universel.
Le football en Espagne à présent. Le Barça a fait une très belle opération tout à l'heure.
Oui, car ils se sont imposés 4-0 face à la Real Sociedad. Martin et Casado ont inscrit les deux premiers buts. Araujo et Lewandowski ont aggravé le score. Les Blaugrana sont désormais leaders de la Liga avec 3 points d'avance sur le Real Madrid qui s'est incliné sur la pelouse du Betis Séville hier.
Et pour être tout à fait complet, parlons de ce qui se passe en Coupe d'Angleterre, la FA Cup.
Et ça va mal pour Manchester United, mais qui vient de se ressaisir à l'instant puisqu'ils étaient menés face à Fulham 1-0. Bruno Fernandes, le Portugais, vient d'inscrire un but plutôt beau pour remettre les scores à égalité.
Un but plutôt beau, ça veut dire quoi ?
Un beau but. Un beau but spectaculaire.
Mais c'est quoi un but spectaculaire
selon moi ou selon les esthètes du football ? Pour moi, c'est un but qui se conclut après une action formidable sur le plan tactique et qui se conclut, comment dire, avec... Je pourrais pas le décrire pour vous dire. C'est bon. Juste magnifique.
Les meilleurs buts, c'est Salut Diouf qui en parle le mieux. Un dernier mot avec ce chiffre. 607 503, c'est le nombre de visiteurs au Salon de l'Agriculture qui ferme à l'instant même ses portes. Une fréquentation en légère hausse pour la 61e édition qui a été beaucoup plus calme que celle de l'année dernière d'un point de vue politique. Ainsi va le monde. Vous écoutez Radio France Internationale. Il est 18h10 en temps universel.